Robert Blondin ici, bienvenue à l'aventure. Aujourd'hui, l'aventure de José Mona, que j'ai rencontré par les hasards des accointances familiales, et qui est un gars qui a plus d'une corde à son arc. On va essayer d'explorer avec lui. On va y aller par rétroaction, José. Maintenant, tu cherches un peu du travail, mais tu en as fait tellement dans ta vie. On va partir le dernier travail, puis on va reculer après.
Oui, OK. Le dernier travail, c'est un poste en direction, directeur des technologies de l'information, en informatique, donc, pour une firme qui offre un service de sondage à travers l'Internet, donc des gros clients. Fait que, donc, des données importantes, puis tout ça, fait que c'était de
Et là, on parle de sécurité.
De sécurité de l'information, oui, c'est ça. C'est très, très d'actualité ces temps-ci.
C'est le moins qu'on puisse dire. Ça, ce genre de travail-là, tu l'as fait de différentes façons. Tu peux prendre un contrat une année, trois ans, et puis faire autre chose après. Ça peut aller d'une firme à l'autre.
Ouais, évidemment, comme toute chose, ça évolue. Hein, puis vers quoi ça évolue, on le découvre au fur et à mesure que le temps avance. Parce que, tu sais, je pense qu'il y a 10-15 ans, on n'aurait jamais cru qu'on serait rendu jusque-là dans la protection de l'information. Mais l'être humain étant ce qu'il est, hein, il cherche à s'approprier.
Ta compétence en informatique, tu l'as prise où?
Ah, ça remonte dans les années 70. Un concours de circonstances m'a amené à travailler pour la Banque de Montréal, chez Mastercard à l'époque. Et puis, il y a des postes qui sont ouverts dans le computer room, qu'on appelait à l'époque. Et puis, j'avais mis mon nom sur la liste, puis finalement, j'ai passé des tests. Et parce qu'il n'y avait pas de formation à ce moment-là. Là, ouais. J'ai appris sur le tas. Puis j'ai commencé comme ça. C'était sur du mainframe. Là, donc, c'était le traitement des chèques qui passaient dans toutes les succursales de la Banque de Montréal, dans l'Est de l'Ontario, le Québec et les Maritimes. À tous les jours, c'était acheminé à la place Bonaventure. Et puis, c'est ça. J'ai fait ça. C'est là que j'ai eu mon training d'informatique, puis j'ai toujours fait ça.
Mais il n'y a rien qui te préparait à ça, parce qu'avant ça, tu as été quoi, ostéopathe?
Ah non, avant ça, non, on était en 76 là, quand j'ai fait ça.
Ah, quand tu as fait ça, tu n'étais pas encore ostéopathe?
Non. J'avais, en 76, j'avais 18 ans. Fait que, tu sais, puis on appelait ça des machines IBM, tu sais, c'était des ordinateurs, mais on ne savait pas, tu sais, le PC n'existait pas encore à ce moment-là. Là. Ça a commencé au début 80, les petits ordinateurs personnels. Mais je ne savais pas trop ce que je voulais faire là, puis... Je trouvais choyé d'être choisi pour travailler dans ce domaine-là. Puis j'aurais pu, en fait, quand tu te ramassais dans le computer room de la Banque de Montréal, tu étais cadre, tu faisais partie du personnel cadre. Donc, j'étais cadre, puis j'ai laissé mon poste pour aller explorer du côté de la musique parce que je faisais de la musique par oreille depuis l'âge de 6 ans. J'avais une formation chez les petits chanteurs du Mont-Royal. Et puis, bon, fait que là, tout ça se bouleversait dans ma tête, puis... Il fallait que j'aille voir ce qui se passait là.
En musique.
Fait que j'ai laissé mon poste de cadre à la Banque de Montréal dans les ordinateurs pour m'en aller à la musique. Puis, drôle de circonstance, parce que quelques semaines avant que je donne ma démission, il y avait eu un autre poste qui s'était ouvert, et ça s'appelle TDMM. C'était toute la télécommunication, la mécanisation des succursales. Donc, les succursales commençaient à se brancher avec le bureau chef pour faire des transactions en ligne. Donc, c'était le début de ça. Puis, c'était ce qui se faisait, le poste qui avait. C'était ce qu'il y avait de plus technologique en informatique à ce moment-là. Puis encore une fois, j'avais mis mon nom sur la liste. Puis le matin que j'ai remis ma démission, on m'avait appelé pour me dire que j'avais le poste. Puis là, je dis, bien là, c'est parce que j'ai remis ma démission. Bien là, on t'aurait pris. Puis écoute, à ce moment-là, j'avais eu une augmentation qui était significative. Je pense que je passais de 18 à 26 000 $ par année, ce qui était énorme à ce moment-là, tu sais. Puis j'ai laissé ça, j'ai pas été. J'ai été
pour
vraiment...
faire de la musique.
Pour faire de la musique, oui.
Mais tu avais déjà des notions musicales.
Oui, oui,
c'est
ça.
Chez petit chanteur, tu avais fait du solfège,
oui.
Tu chantais.
L'harmonie, puis tout ça, oui. On avait eu un bagage d'expérience intéressant. On avait participé à l'enregistrement de l'album Jaune avec Fernand à l'époque. J'avais 11 ans. C'est... Et puis ça m'avait donné la piqûre, évidemment. Il y avait son claviériste, Franck Dervieux, que j'avais connu pendant le spectacle. On avait fait le show à la Place des Arts, à Wilfrid Pelletier. Puis quand j'ai connu ça, là, ça a été comme une... la seringue d'invent, là, c'est ça que je veux faire.
Ça t'éloignait de la banque pas mal.
Oui, c'est ça. Fait que donc, ça, j'avais déjà cette piqûre-là. Fait que je voulais aller voir ce qui se passait là. T'sais. Ce que j'ai fait.
Ce que tu as fait pour faire quoi? T'es devenu, moi, c'est la perception que j'ai, mais je peux me tromper, une espèce de Joe Finger Ledoux.
Ben, ouais, ben, tu fais de tout là-dedans. Un, faut que tu sois très débrouillard, puis il faut que. Tu sais, souvent, les musiciens, c'est introverti, puis tout ça, mais moi, non. Moi, je me levais, puis j'allais chercher la poque, là, tu sais.
Parce que tu chantais en t'accompagnant.
Ouais. Bon, ça, en fait, je faisais partie des petits chanteurs, mais quand tu chantes dans une chorale, c'est pas trop gênant, parce que t'en as 49 autres à côté de toi qui chantent en même temps que toi. Fait que ta voix est pas vraiment perçue. C'est un son d'ensemble, tu sais, une chorale comme les violons, etc. Et puis, mais quand je suis sorti de là, j'étais gêné de chanter. Je chantais jamais devant ma famille. J'étais bien trop gêné. Et puis, il y avait un ami d'école qui dit, faut que je te fasse rencontrer quelqu'un. Puis là, il m'a amené dans un piano bar. C'est la rue Bélanger à Montréal. Puis il m'a fait rencontrer un gars qui s'accompagnait. Il y avait un B3, un orgue Hammond B3. Puis il s'accompagnait avec un drum électronique. Puis le party était pogné dans la place. Et puis, écoute, c'était payant. On est dans les années 79-80 environ. Et puis, il me fait rencontrer ce gars-là. Et puis, ce gars-là, ben il me raconte que lui, ben il avait appris une soixantaine de chansons, des chansons de party, style New York, puis du Beatles, puis un peu de... Tu sais, de faire chanter puis danser des gens. Puis, il gagnait entre 1000 et 1200, puis des fois 1500 par semaine.
Ouais.
C'est de l'argent, là, à ce moment-là. Là. Mais là, il fallait que je passe par-dessus ma gêne et puis que je me monte un répertoire. Fait que je me suis installé dans le sous-sol chez nous et puis je me suis monté un répertoire d'une soixantaine de chansons. J'ai été voir une agence de booking, CR.
T'as-tu fait toi-même?
Ouais. Puis donc j'ai appris des chansons et puis je suis parti. Fait que là, j'ai fait peut-être 7-8 contrats qui n'avaient aucun rapport. Ils m'envoyaient dans des endroits western, puis c'était pas du western que je faisais, ou des endroits que c'était des bikers qui avaient là. T'arrives là, puis c'est tous des gars avec des crestes dans le dos. Ou à l'autre bout du monde, tu sais, puis tu t'envoies à Farnham, tu fais 1 heure et quelques d'auto pour aller faire de la musique à un endroit que personne ne te connaît, puis tu reviens le soir, puis tout ça, pour finalement me ramasser dans un petit piano-bar à Montréal, puis là, ça a cartonné solide, là. Écoute, il y avait un line-up d'or à l'extérieur qui attendait.
Ah, ouais.
Ah ouais, c'était vraiment génial.
Ton répertoire, tu l'as bâti comment?
J'ai été en voir d'autres. Justement, le gars qui m'avait amené voir, j'ai été voir, j'ai écouté pendant une soirée, puis je prenais des notes, qu'est-ce qu'il joue. Puis j'ai été voir 3-4 de ces gars-là, puis je me suis monté un song list à partir de ça qui moi, me plaisait. Et puis, les gens me demandaient des demandes spéciales. Fait que si je la connaissais pas, pendant la semaine, je la prenais, puis le week-end d'après, je la refaisais.
T'sais. Mais tu t'es ramassé avec un répertoire de combien de chansons, là?
Ben... beaucoup. Je les ai jamais comptés, mais quelques centaines faciles, là, tu sais. Là.
Ben, il faut de la mémoire, il faut de toutes ces chansons-là.
Oui. Puis, tu sais, à l'époque, là, tu n'avais pas l'Internet pour te donner des paroles. Puis les paroles n'étaient pas toujours écrites. Quand c'était des 45 tours, il n'y avait pas de paroles, mais sur les albums, les longs jeux, des fois, tu avais des paroles, mais souvent, non. Fait que là, on écoutait les chansons, puis on y allait de notre interprétation, parce que je suis pas anglophone, puis la plupart des chansons étaient en anglais, évidemment. Et puis, on y allait souvent phonétiquement, là. Tu sais, « I will survive », là. Des paroles, quand tu parles pas l'anglais couramment, là. Bonne chance pour trouver ça. Puis, en fait, il y en a beaucoup qui chantaient phonétiquement dans ce domaine-là, à ce moment-là. Là. Fait que c'est ça. Fait que je montais ça. Puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens, dont Mario Lirette, qui a eu une bonne incidence dans ma carrière, parce qu'il travaillait à l'époque à CKMF. Puis, il était venu un soir faire de l'animation où je faisais la musique dans ce piano-bar-là à Montréal, qui s'appelait La Chouannerie à l'époque, sur la rue Saint-Hubert, pour ne pas le nommer. Et puis, on a eu tellement de fun ce soir-là, ensemble, tout ça. Il dit, écoute, il dit, tu représentes beaucoup ce que je pensais devenir, parce qu'il a commencé à faire de la musique dans le Vieux-Montréal. Et puis, c'est ce qu'il pensait qu'il était pour faire comme carrière. T'sais. C'est drôle que tu dises ça, parce que moi, ce que tu fais, c'est ce que j'aurais pensé faire. Comme... Bien, il m'avait invité à la station, puis à partir de là, j'ai commencé à faire des jingles pour la station. J'ai rencontré plein de gens, dont le directeur musical de la station, qui était devenu le gérant de Stéphane Rousseau. Fait que là, j'ai fait de la tournée avec Stéphane Rousseau. Les deux premières tournées, j'ai fait de la production, de la pré-production, puis on a joué live avec lui pendant la deuxième tournée. Fait que ça m'a fait rencontrer plein de gens. Fait que ça a comme buildé là-dessus.
Mais tu t'accompagnes au clavier, là-dedans. Ouais. Mais t'as pris ça où, là?
Moi, je suis le bébé chez nous, puis ma sœur, qui était l'aînée, qui avait 10 ans de plus que moi, mes parents souhaitaient que ma sœur joue du piano. Fait qu'ils avaient acheté un piano qui dormait dans le sous-sol, parce que finalement, elle n'a jamais fait carrière là-dedans. Elle a pris des cours pendant un an, j'imagine, puis elle a abandonné ça. Fait que le piano, il dormait là, dans la noirceur en bas. Puis quand j'allais en bas, ben, je jouais des mélodies à un doigt sur le piano. J'avais 6 ans, là. Puis je savais pas pourquoi, mais je savais quelle note jouer. Tu sais, c'était clair pour moi que c'était ça. Les bonnes notes pour jouer des chansons à la Clairefontaine, peu importe.
Tu sais. Tu avais d'intuition.
Oui, à l'oreille. Fait que quand j'ai été repéré par les petits chanteurs de Montréal, ils passent des auditions pour voir la justesse des notes, des intervalles, puis tout ça. Puis là, moi, j'étais pile poil dessus. Tu sais. Fait que j'ai été recruté. On était, je pense... un bassin de 2000 quelques enfants pour résoudre peut-être 30 à la fin, là, tu sais. Qu'on avait tous à talent égal ou à peu près, là, tu sais. Fait que j'ai un peu le talent de
ouais, mais de là, jouer avec les deux mains, là, c'est autre chose, là?
Ouais, bien, ça aussi, je pense que mon cerveau est bien divisé là-dessus parce que, tu sais, j'écris de la main droite, je suis droitier, mais je pense que je suis plus gaucher, finalement. Parce qu'avec le temps, j'ai fait des tests et puis ça. Puis mon cerveau, en tout cas, mes deux hémisphères de cerveau ont une facilité à se parler, ça me donne une indépendance des membres. C'est comme un batteur, un drummer, c'est l'indépendance des deux pieds, des deux mains, c'est complètement dépendant. Et puis un vrai bon batteur, il va être capable d'inverser son set pour le mettre de droitier à gaucher puis d'être aussi efficace d'un côté que de l'autre. Fait que c'est tout ton cerveau, ton système nerveux qui est travaillé à ce moment-là. Fait que je pense que j'ai un gros bout de cette aptitude-là.
Mais là, c'est pas tout d'avoir une bilatéralité comme ça. Il y a des accords à faire et tout. C'est complexe. Ouais. C'est du gros solfège, de jouer avec les deux. Bien sûr, piano.
Oui. Tous les renversements d'accords et tout ça. Mais je sais pas. On dirait que ça s'est fait...
Mais t'as jamais pris de cours?
Bien, des cours de piano au petit chanteur. Mais sinon, non, j'ai appris par moi-même.
C'est beaucoup, ça.
Oui.
Parce qu'il n'y a rien que tu fais pas avec ça.
Ça m'a dépanné souvent dans ma vie. Ouais.
Mais quand tu fais ce genre de choses, je t'ai vu faire, moi, tu as tout un équipement électronique important, synthétiseur et tout, donc c'est pas juste un piano, là. Tu as ton orchestre dans les deux mains, là.
Ouais, mais je dirais que quelqu'un qui veut bien se démerder là-dedans, là, juste un piano, puis tu es capable de faire... ce que tu veux avec ça. Tu vas être capable de faire sonner le piano pour que les gens puissent s'imaginer la rythmique du drum, puis de la basse, puis tout ça, juste avec la façon que tu vas arranger le cording, les accords sur le clavier, puis tout ça. Tu sais, je regarde Grégory Charles souvent, là, puis je me vois souvent en lui, tu sais.
Ben, j'allais dire qu'il y a une comparaison évidente entre les deux.
Ouais,
ben,
il y a le même cheminement, mais il y avait probablement plus de
talent. Chanteur aussi, ouais,
mais,
là, lui.
Mais oui, mais il est vraiment impressionnant, lui, comme talent, là. Mais c'est le même talent, mais peut-être... Tu sais, ses parents le poussaient, lui, pour qu'il performe. Moi, non. Mes parents, je faisais ce que je voulais. Fait qu'en fait, ce que j'ai fait en musique, c'est pas mes parents qui m'ont poussé là. C'est moi-même qui m'ai poussé à mes limites, finalement. Là,
quand tu chantes comme ça, tu chantes ce que les gens veulent entendre. Mm-hmm. Pas nécessairement ce que toi, tu veux chanter.
C'est ça, exactement.
Ça, c'est un switch intéressant pour un artiste, parce que là, tu es au service de ce que les gens veulent entendre.
Ouais.
Tu n'es pas le gros égo en avant qui fait ce qu'il veut
pas
bien
du tout.
Faire.
Non, c'est tout l'inverse de ça. C'est tout l'inverse, parce que si je fais ça, j'aurai pas de public. T'sais, ça veut pas dire que ce que moi, j'aime écouter, c'est ce que les gens vont vouloir écouter au moment où je le fais, peut-être dans un autre contexte, dans un autre temps, oui. Mais quand tu es dans une ambiance de party puis que les gens veulent chanter, puis ils vont te voir chanter en anglais ou en français, c'est important de savoir ça parce que je peux les amener complètement à un endroit où ça... Tu sais, tu vas mettre un autre public puis ils vont être contents de ce que je vais faire, puis sinon, l'autre public, non, c'est pas ça qu'on s'attend, tu sais. Puis aujourd'hui, je le vois, le clash avec les générations, là. Tu sais, les jeunes n'écoutent pas ce que nous, on écoutait.
Mais là, tu peux pas faire en plus du rap puis tout
non.
ça.
Non, j'ai tiré une ligne à un moment donné, là, puis j'ai dit, bon, je vais m'en tenir à ça pour rester confortable dans ce que je fais, parce que sinon, non.
Est-ce que tu composes, tu fais des chansons?
J'écris pas des chansons, mais j'ai écrit souvent des musiques, des thèmes, des missions, des choses comme ça. Puis ça, j'avais une facilité à faire ça. J'écris bien sous la pression. Mais d'écrire comme ça, juste pour écrire...
As-tu des choses que tu fais pas sous pression? Il me semble que c'est ton genre un peu.
Ouais, je pense que oui. Hein?
Veux-tu bien me dire comment est-ce que tu es devenu ostéopathe, ça, avec les deux mains sur un clavier?
Ah,
là?
Ouais. Souvent, les gens m'ont demandé, même si ça n'a pas de rapport, mais en fait, oui, il y a beaucoup de rapport, parce que un corps humain... C'est 11 systèmes qui cohabitent ensemble dans un même corps. Puis quand on trouve l'équilibre de ces 11 systèmes-là, on appelle ça l'homéostasie. Donc, quand on est en homéostasie, tout va bien. Donc, on est en santé, puis les 11 systèmes ensemble cohabitent de façon conviviale. Ça va bien. Puis quand on est malade, bien là, il y a un déséquilibre qui se crée. Et puis le fait d'apprendre... L'ostéopathie te fait obligatoirement apprendre le corps humain. Tu n'as pas le choix, il faut passer à travers les 11 systèmes. Donc, on parle d'orchestration, encore une fois. Là. T'sais, on vient harmoniser le corps humain. Puis la musique, ben c'est ça. C'est ça. Puis en plus, la musique, c'est aussi des mathématiques. Parce que la musique est d'abord mathématique et physique à cause du son. Parce que le son, c'est de la physique, c'est le déplacement d'air. Donc...
Oui, mais là, on part de la banque, tu deviens musicien, mm-hmm. puis là, tu vas devenir ostéopathe. Bien, il faut étudier pour ça.
Ouais.
C'est des études sérieuses, c'est assez long.
C'est pas encore au public, c'est encore du domaine privé. Il y a différentes écoles qui enseignent différents cursus qui tournent évidemment autour des mêmes choses. Là. Et puis, l'école où j'ai été le font en 3 ans. Les autres, c'est 5 ans. Mais avec le recul du temps... Peut-être un peu d'exploitation du temps et de l'argent des élèves là-dedans, là. Parce que c'est pas régi encore, justement. T'sais. Mais oui, c'est... Puis si tu n'aimes pas ça, tu vas pas faire ces études-là. Ben, là.
Quand tu t'es mis à pratiquer, as-tu aimé ça?
Oui. Mais quand on l'apprend, t'sais, on apprend la théorie, le corps humain et tout ça, puis on se dit, OK, mais de là à toucher les gens, parce qu'il faut que tu touches les gens, c'est une médecine manuelle, ben tu ne sais pas si tu vas avoir la... Comment tu vas réagir? Peut-être que c'est pas le fun de toucher à du monde, là, tu sais.
Mais... Surtout quand tu les choisis pas.
Oui. Oui, parce que des fois, il y en a des drôles de numéros, là, en effet. Mais pour moi, c'était comme ça allait de soi. C'était aucune barrière. C'était facile. Vraiment.
Avais-tu du succès?
Oui. Mais pas assez pour continuer. Peut-être parce que je suis un homme. Je sais pas, j'ai fouillé, tu sais, j'ai pratiqué, j'ai étudié pendant 3 ans, puis j'ai pratiqué pendant 5 ans. Et puis, j'avais pas le succès que ma conjointe était également ostéopathe, qu'elle avait. Puis j'essayais de mettre le doigt sur le pourquoi de ça. Tu sais. Puis j'ai jamais vraiment trouvé la vraie réponse à cette question-là. Mais à un moment donné, il y a d'autres choses qui m'ont appelé ailleurs dans la vie. Fait que j'ai comme fait le choix de, OK, je vais mettre ça de côté, puis aller voir, pour continuer ma vie autrement. Mais j'avais commencé l'ostéopathie parce que je me faisais traiter en ostéopathie pour un problème d'épaule, puis que le chiropraticien n'arrivait pas à le régler. Je sortais de là, j'avais plus mal qu'avant d'arriver. Puis, bref, ça m'a comme ouvert les yeux sur qu'est-ce que c'est l'ostéopathie.
Mais tu faisais toujours de la musique en même temps.
Oui, tout le temps. Toujours en parallèle, oui.
Alors, si on parlait un peu de ton enfance, tu es né dans quel quartier de Montréal?
Rosemont.
Rosemont.
Le nouveau Rosemont qu'il appelait, là. En haut de la côte Sherbrooke. Là. Fait que c'est ça, mais ma famille vient de Hochelaga-Maisonneuve.
Et les parents faisaient quoi? Ils étaient.
Mon père était garagiste. Il y avait une station-service SO sur la rue Papineau. Et puis ma mère était ménagère. Hein?
Oui. Ouais.
Puis c'est ça. Je suis le bébé d'une famille de 5 enfants. Puis il y a eu un trou entre moi et celui qui m'a précédé de 7 ans. Donc j'étais une petite surprise. J'étais plus attendu.
Ah, tu étais gâté?
Ah oui, trop. Trop gâté. Parce que c'est ça, tu sais, il y avait presque une génération entre moi et mes frères et sœurs. Puis ils ont vraiment beaucoup pris soin de moi. Puis trop même. Puis mon père était très absent parce qu'il travaillait trop. Fait qu'il compensait par des cadeaux puis de l'argent puis tout ça. Fait que ça m'a donné des faux plis que ça m'a pris du temps à effacer dans ma vie, ça. Puis ben, juste de comprendre que j'avais ces faux plis-là, ça m'a pris bien du temps. Puis qu'à un moment donné, j'ai eu comme un son de cloche que, OK, peut-être je réagis pas comme il faut dans la vie, puis tout ça, à cause de ça. Bien, ça me... Écoute, j'approchais de la trentaine quand j'ai commencé à réaliser ça, puis que j'ai pu commencer à passer, le faire à passer sur ces plis-là, puis en faire d'autres ailleurs, où j'aurais dû les avoir, t'sais, changer mes valeurs, finalement. Parce que, ouais, puis je comprenais pas ce qui se passait. T'sais, quand j'étais au Petit Chanteur du Montréal, justement, on était pensionnaires là-bas, puis on était là à cause de notre talent, pas parce que nos parents étaient riches. Ça n'avait rien à voir. Ça coûtait 50 $ par mois pour être pensionnaire, là, incluant tout, là. C'est rien, là, tu sais. Puis il y en avait que leurs parents avaient de la misère quand même à payer ça parce qu'ils n'étaient pas bien nantis. Puis mon père, à l'époque, c'était à la mode les enregistreuses à cassette. Puis j'avais demandé à mon père une enregistreuse à cassette, mais il ne m'avait pas acheté le petit modèle, il m'avait acheté le gros modèle, là, tu sais. Puis moi, j'arrive avec ça là-bas, puis là, ça clashait avec la réalité. Mais moi, c'était ma réalité, j'avais pas d'autres références, tu sais. Fait que mon père, il me gâtait toujours comme ça. Je demandais de quoi je l'avais, puis c'était pas le petit modèle, c'était tout le temps le gros modèle.
Avec... Quelle sorte de comportement ça a induit chez toi en vieillissant?
Bien, j'ai souvent pensé que tout m'était dû. Sans même le penser. Tu sais, c'est comme un réflexe qui s'est. J'ai été gravé de cette façon-là. Tu sais, c'est comme ça que mes principes de vie m'ont été inculqués. Fait que. Tant et aussi longtemps que ça va bien dans ta vie puis que tu es on top, c'est pas trop gênant. C'est quand tu débarques de ton piédestal puis là tu te compares à d'autres, c'est là que ça clash, tu sais. Mais quand j'ai commencé à faire de la musique d'un piano bar, puis c'était moi la vedette du piano bar, là. J'étais tout seul, tu sais, c'était un musicien chanteur. Fait que les gens m'acclamaient comme si j'étais Michael Jackson, mais dans, tu sais, 150 personnes, là. Mais l'intensité était probablement aussi forte, tu sais. Puis c'était vraiment quelque chose, tu sais. Mais quand j'étais pas dans ce contexte-là, puis que les gens me connaissaient pas en tant que chanteur, puis on m'a dit vedette, là, tu sais, juste pour mettre un mot dessus. Bien, les gens ne me regardaient pas du même œil, puis je comprenais pas pourquoi. Parce que tout ce que j'avais connu était en relation avec la musique. Tu sais, quand j'étais avec les petits chanteurs du Montréal, on faisait de la tournée, puis les gens nous regardaient comme si on était privilégiés, puis choyés, puis on l'était vraiment aussi. Fait que on avait comme le traitement de faveur, tu sais. Moi, j'ai connu un des musiciens de Céline Dion, qui dit « ça n'a pas de sens », tu sais. Il dit « j'ai pas hâte de débarquer de la production de Céline Dion, parce qu'il dit là, je vais tomber deux pieds dans la réalité. » Mais il dit, on n'est pas habitué à ça. Puis il dit, à chaque fin de spectacle, il y a un party d'after show. Puis même si Céline n'est pas là, bien, eux autres, c'est les plus beaux, c'est les plus fins, c'est les meilleurs. Fait qu'ils ont tout le temps le traitement de faveur, puis c'est tout le temps plus, tu sais. Mais quand tu atterris avec monsieur tout le monde dans la vie ordinaire, puis tu fais métro, boulot, dodo, ouh, là, tu as une leçon d'humilité solide, tu sais. Fait que c'est là que... T'sais, en fait, quand j'ai commencé à mettre la musique de côté, parce que les enfants sont arrivés dans ma vie, puis il a fallu que je priorise les enfants, évidemment, ben c'est là que... C'est ça que je disais, là, t'sais, fin vingtaine, début trentaine, que j'ai commencé à réaliser que, oups, puis tu vois, c'est, ma fille est arrivée, j'avais 30 ans. Fait que ça marche dans le temps.
Parle-moi donc, dans un contexte comme ça, d'enfants privilégiés, gâtés, la vie affective, amoureuse, là-dedans, ça s'est passé comment?
Hey, tu mets le doigt sur quelque chose. Bien, faisant de la musique dans les bars, c'était facile pour moi de ramasser des filles si j'avais voulu. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Parce que j'ai connu une fille, j'avais 16 ans. Elle en avait 14. Puis pour moi, ça a été le coup de foudre. Puis c'était réglé. C'était pour la vie. T'sais. Bon. Fait que quand je faisais de la musique, ben j'aurais pu faire ce que j'aurais voulu, mais je l'ai pas fait parce que c'était pas moi. T'sais. Moi, je préférais être fidèle à elle puis construire là-dessus, tout simplement. T'sais. Et puis, après 21 ans, bon, on avait vieilli les deux.
Vous êtes mariés?
Non, on était conjoints. On a eu deux enfants ensemble. En fait, on s'était laissé après 14 ans parce qu'à un moment donné, on voulait pas d'enfants. Puis à un moment donné, j'ai décidé que j'en voulais, puis elle, non. Fait qu'on s'était laissé 6 mois. Finalement, elle a décidé que, OK, on va avoir des enfants. Puis on est revenu ensemble. On a eu 2 filles. Et puis, au bout de 21 ans total, ben là, nos vies avaient vraiment changé, puis tout ça. On s'est laissé, puis j'ai une autre personne dans ma vie depuis ce temps-là.
Est-ce que ça a été un divorce ou une séparation difficile?
Non. Oui. Mais ça n'a pas été... Ça n'a pas été une séparation, ça n'a pas été la guerre entre moi et elle. Là. On s'est arrangé pour que tout se passe bien pour le bien des filles. En ce sens-là, ça a été facile parce que jamais on n'était pas d'avocat ou quoi que ce soit. Puis moi, j'ai dit, je vais toujours prioriser les filles, puis on fait ça 50-50. Comme ça va être fair pour tout le monde. Mais à un moment donné, je faisais beaucoup plus d'argent qu'elle, puis on a changé ça pour 70-30 parce qu'elle gagnait beaucoup moins que moi, puis tout ça, puis c'était correct, tu sais. Mais ça n'a pas été une décision facile parce que ça a changé toute ma vie, surtout quand tu as des enfants. Là.
C'est elle qui voulait partir ou toi?
Non, c'est moi.
C'est toi?
Oui.
Parce que tu as rencontré quelqu'un? Ou...
Oui, exactement. Ben oui, mais mes goûts avaient changé aussi avec le temps. Là, quand tu as 16 ans, là, prendre des exemples banals, je ramène souvent ça comme exemple. Il y a plein de choses que j'aimais pas manger parce que de la moutarde, j'aimais pas ça. Puis 15 ans plus tard, j'aime la moutarde. Pourquoi? Évidemment, c'est niaiseux comme exemple, mais c'est un principe de base.
Quelle sorte d'éducateur t'as été pour tes filles?
Je pense très bon. Parce que mes filles, ça a toujours été une priorité pour moi. Puis, Isabelle est arrivée en premier, puis j'étais toujours après elle pour lui montrer des choses. Puis, il y avait le dictionnaire Larousse, la dernière page, c'était des drapeaux des pays, là. Elle les connaissait presque tous. Elle avait 4 ans ou 4 ans et demi. Là. Je disais, Isabelle, montre-moi le drapeau du Japon. Puis elle me pointait tout sans erreur. Ça, ça impressionnait le monde, ça. Puis 2 ans et demi plus tard, Caroline est arrivée. Puis là, c'est drôle parce que Isabelle a pris la balle pour montrer à sa sœur tout ce qu'elle savait. T'sais. Fait qu'Isabelle allait à l'école, puis quand elle revenait à la maison le soir, elle montrait à sa petite sœur ce qu'elle avait appris dans la journée. Fait que quand Caro est arrivée à l'école, elle savait lire et écrire déjà, tu sais. C'est pas nécessairement une bonne chose, parce qu'elle se faisait suer plus souvent qu'autrement. Là, parce que quand ta maîtresse te montre des choses, mais t'es sait déjà. Qu'est-ce que tu fais là? Puis c'est pas parce qu'elle était surdouée, c'est juste parce que sa sœur lui avait tout montré. Là.
Alors, parle-moi de la deuxième conjointe.
Martine? Ouais, en fait, ça faisait déjà plusieurs années qu'on se connaissait. On s'était connus à cause de la musique, parce que Martine était une chanteuse, auteur-compositeur aussi. Et puis, il y avait beaucoup plus d'affinité entre moi et elle à ce moment-là de ma vie. Et puis, il me semblait que c'était un choix facile à comparer de tout ce que j'avais vécu jusque-là, malgré le fait que ça impliquerait fort probablement un jour que je me sépare de ma première conjointe, Lise, puis que là, les filles étaient là, fait que c'est sûr qu'il y avait un contre-coup qui se donnait là, fait que... Ça a été probablement la décision la plus difficile de ma vie. Là. Mais c'est ça. Fait que c'était à l'époque, je pense qu'il y avait 3 familles sur 5 dont les parents étaient séparés. Fait que j'ai dit, OK, on fera pas partie de la minorité, on va faire partie de la majorité en plus. T'sais. Fait que ça m'avait aidé un peu à...
C'est quand même étonnant parce que tu as été un enfant gâté, etc. Tout était dû, l'enfant roi, finalement.
Ouais.
Et avec un métier de bar et de club de nuit et de chanteur, etc. Mais tu es un homme fidèle à travers tout ça.
Ouais,
c'est pas évident, ça.
Non, mais je suis resté rigoureux à travers ça. Puis je vais te dire, je suis pas le seul. Il y en a beaucoup qui c'est pas ça, là, on s'entend. Là. Mais j'en ai connu d'autres comme moi qui étaient, je vais dire, straight, là, qui faisaient leur job. Puis que bon, ça m'empêchait pas d'avoir du fun. Puis, parce que, tu sais, le but d'être dans un bar pour faire de la musique, c'est de mettre le party dans la place pour que la caisse fasse ding, ding, ding. Plus la caisse fait ding, 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 plus le boss t'aime, puis plus longtemps tu restes là. Puis tu vas revenir assez rapidement parce que tu attires les gens, puis tout ça. Tu sais, c'est l'offre et la demande. Fait que ça, je l'ai compris tout de suite, que ça fonctionne. C'est pour ça que tantôt, à ta question, je joue que ce que les gens veulent entendre, ben j'ai été comme entraîné à fonctionner comme ça. Fait que, puis des fois, je m'accrochais les pieds après les heures, mais c'était assez rare, tu sais. Plus souvent qu'autrement, on allait manger au resto, puis j'allais me coucher chez nous, puis à 7 heures, ma blonde se levait, puis elle allait travailler, tu sais. Ouais. C'est une drôle de vie, mais c'était le fun à ce moment-là. L'argent était au rendez-vous aussi. Tu sais, c'était très payant, là. Vraiment payant.
Parle-moi un petit peu de l'importance du matériel technique pour faire ce genre de métier de chanteur qui s'accompagne dans des bars.
Ce sont tous des outils qui sont plus ou moins nécessaires selon l'événement. Je vais m'expliquer. On peut se ramasser chez vous un samedi soir, on se fait un souper, puis on est 6-8 personnes, puis il y a un piano qui traîne là, puis je vais pouvoir me mettre à jouer des demandes spéciales on the spot comme ça, puis je vais rester assis là 3-4 heures, puis ça va passer comme si c'était 10 minutes. Puis on va avoir autant de plaisir que si j'étais dans une grande salle avec 400 personnes, puis toute la technologie derrière, tu sais. Évidemment, c'est... Les outils facilitent la tâche selon ce qu'on a à livrer aussi comme résultat. Mais il faut que ça puisse se passer avec le moins d'outils possible. T'sais, une guitare ou un piano.
Pourquoi tu n'as jamais fait de disque? Où est-ce que tu en as déjà fait?
Ah, j'en ai fait. J'en ai fait, puis même j'ai fait des choses qui ont tourné pas mal. J'avais signé un contrat avec Ben Kay, qui est devenu le bras droit de Renan Gelly dans les productions Feeling. Puis en fait, on était comme en plein milieu de mon contrat quand Ben est venu me voir puis me montrer une cassette de Céline Dion. Il dit... Ben, c'est un juif qui cassait le français, là, tu sais. Hein. Lui, il avait été gérant des Classelles, by the way. Il avait écrit des chansons pour les Classelles. Et puis, il me dit, « Oh, regarde, José, je viens de signer avec mon ami René. » Il dit, « Cet artiste-là, je pense que ça va être très, très gros. » Puis en effet, il avait vu juste, fait qu'il a comme laissé aller tous les artistes avec qui il avait signé des contrats, puis il s'est concentré sur Céline Dion, évidemment. Mais on avait fait deux disques avec lui, dont un qui s'était rendu en nomination au People's Choice Award à Toronto. J'ai fait plusieurs petites productions de disco dans les années fin 70, début 80 aussi, avec des amis, Pierre Purpal, tout ça. Puis étonnamment, c'est drôle parce que je l'ai vu ce matin, Pierre, puis on se relatait dans des souvenirs. Puis il y a des disques qu'on a fait à l'époque qui roulent encore aujourd'hui un peu partout sur la planète, dans l'underground, mais ça roule encore, il tire encore des redevances de ça. J'avais fait aussi quelque chose qui avait roulé pas mal avec un ami... C'est une chanson de Kathmandu, « I Wanna Dance ». J'avais fait des claviers puis le drum électronique là-dessus. On était en 81, je pense, à ce moment-là, 80-81. Ça, ça a joué un peu partout sur la planète. Ça fait que ça, c'était...
Est-ce que tu as une espèce de nostalgie ou de regret de ne pas être devenu une grande vedette, là? Tu aurais pu l'être.
Oui, puis non. Oui, puis non. Oui, dans le sens pour la gloire puis le « the fame », tu sais, là. Puis l'argent qui vient avec tout ça. Mais aujourd'hui, je regarde des artistes qui ont réussi, mais à quel prix? Parce que, tu sais, oui, ils ont eu une vie riche et célèbre, mais point de vue psychologique, on n'est pas à la même place, tu sais. Dans l'anonymat, tu peux te permettre beaucoup de choses que tu peux pas te permettre quand tu es connu, tu sais.
Et ça t'a jamais pesé, l'anonymat?
Non. Oui. Oui. Ça, c'est la vraie réponse, en fait. Des fois, oui. Des fois, tu sais, c'est comme, puis qu'est-ce que ça aurait été si... Mais je vis pas dans les regrets puis dans les remords, tu sais. J'accepte où je suis aujourd'hui. Je suis bien. Je suis en santé. Tu sais, Netflix, il y a beaucoup de documentaires qui appellent là, sur les groupes, les artistes, puis je regarde ça, puis là, j'apprends des choses sur les artistes que j'aurais jamais pu savoir autrement, là, tu sais, des choses qu'on n'avait jamais entendu parler. Puis, OK... Puis ça m'aide à comprendre pourquoi je me suis pas rendu là. Parce que, en fait, vu que j'étais enfant roi, j'ai pas eu de problème. Fait que j'ai eu une belle enfance. Fait que j'avais rien à raconter, moi. À comparer à des Whitney Houston, puis
Des gens qui ont souffert.
Oui, hein? C'est ça, tu sais, qu'il y avait vraiment de quoi raconter. Fait que, OK, moi, je comprends pourquoi que... Tu sais, j'avais un beau talent d'entertainer puis d'interprète, mais pas d'auteur-compositeur.
Quand tu dis entertainer, c'est important parce que je t'ai vu faire, tu fais pas uniquement des chansons, tu fais beaucoup d'animation dans un groupe.
Ouais,
là.
Ouais,
t'es
ouais.
Un chef de party, là.
Oui, je pense que c'est aussi important. Les deux vont de pair, ça prend les deux à force égale. Tu peux pas être un petit peu animateur puis très bon musicien, ça prend les deux. Pour faire des soirées dans ce genre-là, tu sais.
L'importance de l'amitié dans ta vie, ça a été quoi?
J'ai des amitiés qui existent depuis trentaine d'années, puis même quelques-uns que ça remonte l'âge de 9 ans. Et puis, si c'était pas de certains décès, ils seraient encore là, là, mais il y en a d'autres qui sont toujours là, dont des anciens petits chanteurs qu'on se voit encore sur une base annuelle. Des fois, c'est un peu plus souvent. Puis ça, c'est comme des frères. C'est, on a été élevés ensemble de 9 à 14 ans. Là, fait que c'est dans la période où toutes nos vraies valeurs s'intègrent. Fait que quand on se voit, on dirait qu'on pense pareil. T'sais. On a tous pris des chemins différents. Mais quand on se retrouve, c'est comme si c'était hier qu'on s'était laissé. Dans le show business, même chose. Dans la musique, domaine artistique, je vois des gens. On peut être un an, deux ans, 10 ans sans se voir. Puis quand on se voit, bien, c'est comme si c'était hier. T'sais. Puis il y a pas de masque, c'est « what you see is what you get ». C'est un peu comme avec toi, là. C'est facile.
C'est ça. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont déçu, que tu es resté amer un peu?
Oui. Dans des amitiés, oui. Il y a des gens que... Il y en a certains que j'étais sûr que c'était des amis à la vie, à la mort, dont un que j'avais aucun filtre, puis je lui disais à peu près tout. T'sais, on a tout notre petit jardin secret, là. Puis lui, il savait presque tout de moi. Pas tout, mais... Puis il m'a amené, disparu de ma vie. Je l'ai sondé, je lui ai dit, écoute, il s'est-tu passé quelque chose? Y a-tu quelque chose? J'ai dit, non, toi, t'es beau. C'est parce qu'on se parle plus. Je te laisse des messages, tu me rappelles pas, puis ça. Non, toi, t'es beau. OK, on se fait un petit souper dans deux semaines chez nous, tout ça. OK, j'ai jamais revu. J'ai jamais compris pourquoi, puis tout ça. Fait que ça, c'est décevant parce que tu t'investis.
Ça fait mal.
Oui, parce que je pense que l'amitié, c'est une rue à deux sens. Là. Ça marche dans les deux sens. Là. Fait que si tu donnes, bien, tu reçois, mais il faut que tu donnes pour recevoir. Puis dans une amitié, si tu fais juste donner, bien, à un moment donné, ça marchera pas, c'est certain. Là,
Dans ce monde où on vit, José Mona, est-ce qu'il y a des choses que tu crains ou que tu vois un peu de façon pessimiste?
Ouais.
Quand on arrive à ces âges-là, dans la soixantaine, on commence à voir les choses clairement un peu. Là.
Ouais. Bien, il y a le contexte dans l'époque dans laquelle on vit présentement, là. Tu sais, il y a eu l'industrialisation qui s'est passée, je dirais, début 1900, là. Surtout après la Deuxième Guerre mondiale, là, il y a eu comme un boom. Et puis les années 70-80, là, ça a été comme un slingshot qui a propulsé la technologie, là, rien que d'un bond en avant. Puis ça fait en sorte que les enfants qui viennent au monde aujourd'hui, ou mettons depuis l'an 2000, vivent dans une ère qui est virtuelle, beaucoup. Et puis, mon opinion, c'est que c'est un des facteurs principaux qui fait que les enfants aujourd'hui sont très, très anxieux, vivent dans l'angoisse, dans l'anxiété, et puis ne sont pas connectés avec leur corps et avec leurs ressentis. Fait que ça fait
avec
peur.
Les autres.
Pardon?
Les seuls autres qui connaissent, c'est les avatars.
Oui, c'est ça. Donc, c'est du virtuel. Puis moi, ayant été presque toute ma vie en informatique, j'ai vu ça comme évoluer. Puis en fait, c'est l'arrivée de l'Internet qui a donné l'accès à plein de choses qu'on n'avait pas avant. Ça a tout redéfini nos façons d'être puis nos façons de réagir. Il y a des choses qu'on ne peut plus dire, qu'on disait dans les années 80-90. On ne peut plus penser comme ça. Puis c'est dur à intégrer ça, puis surtout quand tu arrives au début de la soixantaine, là. Puis que tu dis, OK, j'en ai les deux tiers de fait certains, là. Je sais pas combien est-ce qu'il en reste en avant de moi. Je sais combien est-ce qu'il y en a en arrière de moi. Fait que ça te porte à réfléchir davantage sur qu'est-ce que je fais là, puis qu'est-ce que les jeunes font là. Puis qu'est-ce qui va se passer avec l'humanité, avec la planète. Parce que, tu sais, on entend l'expression que... Il y a un mur devant nous autres, puis on a la pièce à la pédale dans le fond avec une brique dessus, puis on le réalise même pas, là, tu sais. Fait que...
Il y a une notion que j'aimerais dont tu me parles, c'est la gloire. Tu l'as pas eu vraiment comme musicien, tu as pu en avoir le goût de temps en temps, puis
échelle,
ça t'a quitté,
ouais.
Bon, à petite échelle, mais quand même. Mais actuellement, ça me semble la nouvelle valeur, parce que je regarde des jeunes aller... Et tout est autour de la notoriété. Dès que quelqu'un a la moindre notoriété, il devient intéressant. Et les gens qui ne sont pas des gens notoires, des vedettes, ne sont pas intéressants. Ils ne cherchent que ça.
Ouais.
Et leur objectif de vie, souvent, c'est de devenir un jour connu. Tu sais, combien j'ai de clics sur mon site, combien j'ai de clics sur
mon
rayon.
Mais probablement parce que c'est quelque chose qui est impalpable, justement. Puis c'est en lien avec ce qui est virtuel, tu sais. Parce que ça existe-tu vraiment, ça? Ou c'est un chiffre sur YouTube ou...
J'ai vu une phrase sur Internet justement récemment en disant « Être célèbre sur Internet, c'est comme être riche au Monopoly. »
Ouais, c'est bon. C'est un bon comparatif, hein? Ouais, c'est ça. Mais à un moment donné, la game va finir. Puis tu vas le remettre dans la boîte. Ouais. Ah, c'est tout un problème, ça. Honnêtement... J'aimerais pouvoir dire que j'y crois, mais quand je regarde puis je constate, c'est pas le son de cloche que j'obtiens.
C'est important ce que tu as dit tout à l'heure. C'est pas l'informatique qui est le problème, c'est l'Internet.
C'est l'accès à ce qu'il y a sur Internet, parce qu'il y a tout sur Internet. Il y a absolument tout, du bon, du mauvais, mais aussi intense dans les deux côtés. Tu sais, puis t'as le dark web, que ça, je veux même pas aller là. Non. Il se passe de la magouille là-dessus comme ça, n'a pas de sens. Il y a moyen de faire énormément d'argent avec ça. C'est un outil qui est extraordinaire parce que ça donne accès à tout plein de possibilités. Mais tu sais, moi, je vis avec mon téléphone intelligent. Là, puis dans l'étui de mon téléphone intelligent, j'ai toutes mes cartes importantes. Puis dans le téléphone intelligent, j'ai tout le restant. Fait que si je le perds, je l'oublie, je me le fais voler. C'est fini. J'ai plus rien. Là. Retracer ça puis remonter ça, je vais finir par y arriver, mais ça va prendre du temps. Mais tu sais, on ne mémorise plus les numéros de téléphone comme on faisait avant. T'sais. Je me souviens encore de mon numéro de téléphone de quand j'étais enfant puis de tous mes amis sur la rue. Là. Je m'en souviens encore aujourd'hui. Mais le numéro de téléphone de mes filles, je ne le connais pas par cœur parce qu'ils sont mémorisés dans le téléphone. Pourquoi j'aurais à m'en souvenir?
Un gars de musique comme toi qui en fait encore, qui en a fait toute sa vie, comment tu vois la musique pop plus moderne, le rap et tout ça?
Aïe. Hey, ça, c'est drôle comme question. Parce que je me revois comme mes parents étaient quand j'étais jeune, puis qu'ils disaient, ben, c'est la musique de drogué. Puis là, bon. Puis là, ben, j'écoute la musique de jeune. T'sais, on est arrêté à un numéro rouge, puis t'entends la musique dans l'auto à côté. Puis tu dis, comment est-ce qu'il fait pour écouter ça? C'est même pas de la musique, c'est du bruit, tu sais. Mais je respecte ça. Tu sais, je fais le même rapprochement que moi, quand j'étais jeune, tu sais, j'écoutais les Beatles ou Charlebois, puis mes parents n'auraient jamais écouté ça, là, tu sais. Fait que je leur laisse ce qui est à eux, mais la seule consolation que j'ai, c'est que la plupart des jeunes écoutent quand même notre musique qu'on avait à notre époque, parce que on dirait que c'est comme les racines de la musique sont... T'sais, autrefois, on disait que les racines de la musique étaient dans le classique, et c'est toujours vrai, parce que ça changera pas. Mais la musique qui a été écrite dans les années 60, disons 60-70, c'est encore des références. T'sais, je fais allusion aux Beatles, entre autres, là, qui ont écrit une panoplie de chansons, Rolling Stones. Bon, combien de groupes, on ne les nommera pas tous, là, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais rarement on entend des artistes qui ont ce calibre-là aujourd'hui. Rarement. J'en ai entendu un l'autre jour. C'était quoi son nom, là? Bref, j'ai oublié son nom, mais... Oups! Lui, il n'est pas comme les autres. Lui, il a quelque chose dans son écriture, dans ses mélodies, dans son ton de voix, que, OK, il a compris comment ça s'écrit une chanson puis comment venir nous toucher.
Parce qu'on est dans le domaine de l'éphémère complètement.
Oui, c'est ça.
Tous ces groupes-là qui durent six mois ou six ans. Six ans, c'est déjà chanceux.
Bien, je me souviens quand je faisais de la production de disques, puis ça, il y avait un producteur... qui nous avait dit, très bientôt, une carrière va presque être éphémère. Tu vas avoir ta journée de gloire ou ton mois de gloire, puis après ça, tu vas te mettre à descendre tout de suite. Voyons donc. Il y avait pas tard.
C'est ce qu'on voit partout. Hein? Ouais. Et pas uniquement dans le domaine de la musique, d'ailleurs. Mm-hmm. Quand tu regardes, si on parlait un peu politique, quand tu regardes ceux qui nous dirigent, ici et ailleurs, ils s'arrangent pour être là pour longtemps, mais les idées qu'ils transportent sont des idées d'éphémère. Mm-hmm. Les idées qui sont politiques ne sont que des idées électoralistes pour être élu et garder sa job. C'est tout, hein?
C'est ça. Il n'y a pas de vision long terme.
Il n'y a rien.
Qui pourrait aider à sauver le monde, probablement?
Il me semble, là. Ouais. Que ça te fait quoi, toi?
Ça me fait peur. Honnêtement, là, les dernières élections, j'ai même pas été voté pour la première fois de ma vie parce que j'y crois plus. Je regarde ça, puis pour moi, là, c'est... toutes des marionnettes. Ils n'ont pas d'aura. Je crois pas. C'est que du blabla. Puis il n'y a personne qui met vraiment, excuse l'expression, mais ses couilles sur la table. Là, parce que si tu veux vraiment faire la différence, c'est ce qu'il faut faire. Là,
les couilles dont tu parles, c'est leur fonds de pension.
C'est ça.
Parce qu'un mandat, deux mandats de plus, ça te fait une belle pension.
Ouais. Ouais.
Si toi, on te donnait les pleins pouvoirs, là, on dit pour 5 ans, c'est toi le boss, tu décides.
Non.
Tu sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu ferais?
Au niveau politique?
Ouais.
Qu'est-ce que je ferais? Wow. Faudrait que j'aille le plein pouvoir, mais est-ce qu'ils ont vraiment le plein pouvoir, ces gens-là?
Ah non, ils l'ont pas. On s'amuse, on tombe dans la fiction. T'as le plein pouvoir, tu seras jamais réélu, mais pour 5 ans, c'est toi qui mène.
Ouais.
T'as pas de compte à rendre.
Bien, j'essaierai de rallier tous les dirigeants du monde pour qu'on s'entende sur des mêmes choses, puis de poser des actions. T'sais, même si on s'entend sur une chose, bon, moi, que ça soit fait concrètement. Parce que je pense pas qu'on puisse s'entendre sur, disons, une vingtaine de points pour pouvoir ramener la planète, là. Mais si on pouvait juste s'entendre sur un, puis le faire exemple. T'sais, j'ai entendu quelque chose récemment qui était un peu bizarre comme idée, c'est de dire, OK, on va arrêter des avions parce que ça pollue trop. Je me suis dit, bien voyons donc, on peut pas faire ça, mais dans le fond, c'est une solution concrète. On va se trouver une autre façon de... Tu sais, où on va descendre ça à 1/10 des vols qu'il y a. Parce que quand on regarde ça sur les maps radar d'aviation, c'est fou le nombre d'avions qu'il y a en même temps, non-stop, là. C'est 24 heures par jour.
Et pour les bateaux, c'est encore pire.
Oui, c'est ça. Les bateaux de croisière.
Les bateaux de croisière, c'est effrayant.
C'est des plus gros pollueurs. T'sais. On voit des vidéos sur YouTube qui vident les poubelles carrément dans l'océan. Ben voyons donc. C'est ça. T'sais, toutes ces choses-là, là, ça, il faudrait arrêter ça tout de suite. Là, les grosses industries polluantes, là, c'est fermer les grosses champlures. Là, t'sais.
Mais tu sais, tu parles de l'avion. Pour les plaisirs de la discussion, si les gens arrêtaient de se déplacer et qu'on acceptait simplement ceux qui voyagent, je m'explique. Moi, j'ai rencontré plein de gens qui disaient « Ah, M. Blondin, moi aussi, comme j'ai beaucoup voyagé, déjà, moi aussi, je voyage beaucoup. Vous savez que ça fait 32 fois que je vais à Daytona. Mm. » T'appelles ça voyager? Mm-hmm. Ça, c'est se déplacer.
Ouais.
Et je pense que ça gruge beaucoup.
Ouais. C'est pas nécessaire.
C'est pas nécessaire. Et c'est plein de gens qui voyagent pour passer le temps. Il n'y a pas une utilité réelle, économique ou autre, rien.
C'est ça, exactement. C'est pour ça que je dis, tu sais, si on pouvait diminuer ça à 10 % juste pour faire déplacer les gens que c'est nécessaire de déplacer, on va avoir réglé 90 % de ce problème-là, ce qui est énorme. Là, tu sais, si on peut faire la même chose avec les bateaux croisés, est-ce vraiment nécessaire ou changer votre façon de faire? Tu sais? Bon, là, il y a l'énergie plus propre, les batteries puis tout ça, mais encore là, ces batteries-là, on va faire quoi avec ça dans 10, 15, 20 ans?
Et ça a coûté combien à l'environnement de les construire, oui, ces batteries-là?
C'est ça, exactement.
C'est pas sûr que c'est une si grande solution que ça, à moins d'avoir des panneaux solaires sur le
toit. En fait, c'est que les vraies solutions, elles existent, mais elles sont tablettées. Bon, tu sais, des moteurs à vapeur et tout ça, il y a moyen de faire marcher des choses avec d'autres choses que du pétrole puis de l'électricité, tu sais. Probablement que Tesla en avait une bonne solution, mais on lui a fermé la trappe aussi, apparemment. T'sais. Bon, on embarque dans une autre discussion, là, mais c'est ça. L'humain, c'est comme les politiciens. Ils sont là pour leur un, deux mandats et leur fonds de pension. Fait que c'est ça. C'est le même principe qui est appliqué.
Comment ça va aller, ton vieillissement?
Je pense que ça va bien se passer. Le tournant du 60 ans n'a pas été facile, disons, à 57 ans, là. Moi, c'est à 57 que c'est arrivé, là, que, wow! À un moment donné, j'y croyais plus.
T'as fait une grosse dépression.
Ouais.
Est-ce que tu sais pourquoi?
Oui, parce que j'ai travaillé beaucoup là-dessus, j'ai consulté, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même. Vraiment beaucoup, là. Et puis, pour comprendre qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi ça m'est arrivé à ce moment-là, puis c'est pas une raison, c'est plusieurs raisons qui fait que tu te ramasses là un moment donné dans ta vie. Et puis, une fois que tu réussis à identifier chacun des paramètres qui t'a amené là, ben tu prends un par un, puis tu essaies de l'éliminer ou le guérir ou de le réparer. En tout cas, bref, ce qu'il faut faire pour pouvoir continuer, tu sais.
Est-ce que tu dirais qu'il y a eu un José Mona d'avant sa dépression et un d'après?
Ah oui.
Et c'est pas le même, hein?
Non. Je suis beaucoup plus conséquent qu'avant. Autrefois, j'avais le rire facile, le sourire facile. Ça, c'est plus là. C'est de valeur parce que... Puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais ramener dans ma vie parce que de rire... C'est une des meilleures thérapies. Tu sais, quand je travaillais avec Stéphane Rousseau, toute l'équipe qu'il y avait autour, on passait notre temps à rire, là, tu sais. Les musiciens, on embarquait dans wagonnette pour partir en tournée, puis on riait jusqu'à temps qu'on revienne 4-5 jours plus tard, là, tu sais. Pour tout, puis pour rien, là, tu sais. Puis ça vient comme enlever le poids de ses épaules, là, de façon vraiment importante. Puis juste de rire physiquement, ça fait du bien aussi.
Tu n'y arrives plus?
Non. Peut-être parce que je suis pas dans le bon environnement. Ça peut être aussi banal que ça. Tu sais, quand tu travailles dans un bureau, t'es pas payé pour rire, hein? T'es payé pour donner un résultat. Et puis moi, j'ai toujours préconisé le bonheur à l'ouvrage, tu sais, parce que c'est important. Ça vient justement dédramatiser tout ce que tu as à faire. Hein? L'important, c'est que tu fasses ton boulot, tu sais. Mais que tu le fasses en riant ou en pleurant, ça peut faire toute la différence.
Ça explique-tu pourquoi il y a tellement plus d'humoristes au Québec que de chanteurs qui font des tournées?
Ben oui, tout à fait, parce qu'on voit que le besoin est là. T'sais. C'est malheureux que ce soit comme ça, parce que s'il n'y a pas d'équilibre entre la chanson puis l'humour, mais c'est comme une évidence. T'sais. Puis moi, le premier, je vais écouter de la télévision, puis quand je tombe sur un show d'humoriste, ben, je l'écoute parce que je trouve ça drôle. Tu penses pas à d'autres choses pendant ce temps-là. Tu sais, c'est plus souvent qu'autrement, c'est de l'absurde. Puis t'as pas besoin de penser à ce moment-là. Tu fais juste les recevoir une en arrière de l'autre, puis t'es ri. Puis quand c'est fini, bien, tu te lèves, puis ça a fait du bien de rire comme ça, tu sais. Puis le lendemain matin, tu t'en souviens même pas des gags qui ont été dits. L'important, c'est que t'as ri, tu sais. C'est comme aller marcher dans le bois. Tu sais, marcher dans le bois ou marcher sur un trottoir en plein centre-ville, bien, c'est pas pareil, tu sais. Ton corps a besoin de ça. Il y a des choses qui se passent dans la nature que tu ne trouves pas, ces planchers de béton puis tout ça. Ça va te faire du bien quand même de marcher parce que c'est une activité physique, même si tu es en plein centre-ville dans la pollution. Mais ça va être bien plus payant si tu vas le faire en montant une montagne ou sur le bord d'un lac. Ça, j'ai inclus ça dans ma vie depuis quelques années. ça fait du bien à mon dit, ça aussi.
Quand tu vas être beaucoup plus vieux, là, 75, 80, ouais. à quoi tu vas ressembler? Ça va être quoi tes journées?
Hey, tu me réinviteras puis je te raconterai ça. J'ai aucune idée.
Je serais peut-être plus là, moi, par exemple.
Ouais, j'écoute. J'espère que ça va ressembler encore à ce que. De la façon que je pense aujourd'hui. Parce que je suis en train de me remodéliser pour que ça tienne la route, justement. Fait que si mon plan est bon, je devrais être encore dans les mêmes paramètres. Mais j'aimerais ça me déplacer à pas trop de coûts pour aller voir du pays, voir des gens. Le contact humain, là, c'est tellement important. Là. Puis on le perd hein, dans les grandes villes. Là.
On n'ose pas. Mais toi, tu as un instrument privilégié pour contacter des gens. Tu leur chantes des chansons.
Oui. Oui. Fait que ça, en tout cas, j'ai la volonté de réintégrer ça dans ma vie, là, présentement. Du fait que je viens de perdre un emploi. Là. Fait que je vais essayer de ne pas me réinventer parce que je l'ai fait toute ma vie. Là. On va arrêter de réinventer des choses, là, mais. Parce que c'est ma force, t'sais. J'ai pas besoin de penser. Je m'assois devant un piano, puis ça part, puis c'est comme si je respirais. T'sais. Simple comme ça.
José Bonnard, merci.
Merci à toi.
C'était l'aventure à la mise en onde Jean-Sébastien Laliberté. Robert Blondin ici, à la semaine prochaine.